À l'Hôtel de la Rive, 200 personnes se sont réunies sur l'invitation du regroupement pour la construction d'un pont à Sorel-Tracy-Lanoraie. Avec moi, vous le reconnaissez, avec nous, vous le reconnaissez, Luc Poirier, qu'on a reçu à quelques reprises à l'émission depuis qu'on parle de façon plus réaliste de ce projet-là. C'est encourageant, Luc Poirier, de voir que les gens ont répondu à l'appel.
Très encourageant. D'ailleurs, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. Je suis très content de voir la réaction des gens. Puis qu'enfin, parce que je le dis depuis plusieurs mois, la région, il faut qu'elle se mobilise si vraiment ils veulent avoir un pont. En fait, le pont, c'est pas mon pont, c'est le pont de la région. Donc, c'est le pont de la région. Donc, mobilisez-vous, puis ensemble, on va réussir à avoir notre pont.
Parmi les sujets qui écorchent un peu, évidemment, on parle de tout ce qui touche la traverse. Les gens qui hésitent à embarquer dans le projet du pont, c'est parce qu'ils tiennent à conserver la traverse. Et là, on a vu que les chiffres qui sont véhiculés, les chiffres que vous détenez, les chiffres qui sont véhiculés par la partie politique, entre autres, concordent pas. Là, ça coûte combien opérer une traverse ici, à Sorel-Tracy, selon Luc Poirier?
Selon moi, c'est tout simplement, on a fait nos chiffres, c'est 40 millions. Puis, on dit, les chiffres véhiculés vis-à-vis du gouvernement, on parle de 4 millions. Bien évidemment, ils ne calculent pas le coût des traversiers, donc seulement l'opération. Donc, les gens qui travaillent sur place seulement, et non le back-office, par exemple, les bureaux que ça prend pour ces gens-là, etc., les conventions collectives, les syndicats, etc. Donc, eux, dans le 4 millions, ils calculent seulement bon l'employé à 20 $ de l'heure, tant d'employés, les retours, donc l'argent qu'ils reçoivent des traversiers, puis ils disent 4,6 millions. Mais la réalité, c'est comme si on prend votre maison personnelle, par exemple. Votre maison personnelle a un coût. Si vous payez 300 000 $ vous avez un coût annuel, exemple, d'une hypothèque de 40 000 $ par année. Puis eux, la manière qu'ils calculent, ils ne calculent pas du tout l'immobilisation. Ils calculent seulement les frais de chauffage, par exemple, et les taxes. Donc, moi, je pourrais dire ma maison qui vaut 300 000, mes seuls coûts que ça me coûte, ben c'est 10 000 $ par année qui sont les taxes, puis frais de chauffage, climatisation. Puis c'est pas vrai. Le vrai coût, c'est 10 000, mais il faut rajouter qu'est-ce que la maison a coûté et les réparations, parce que c'est pas vrai, là, il y a des réparations à faire. D'ailleurs, vous avez la preuve, le gouvernement vient de mettre 12 millions, il y a un autre 20 millions à mettre prochainement, et il y a un autre 40 millions d'ici 2-3 ans qui à mettre. Fait que ces calculs-là d'immobilisation sont nulle part dans leurs 4,6 millions.
Et justement, à partir du moment où Luc Poirier dit qu'il veut faire économiser 40 millions à la région et que Luc Poirier voit qu'on met de l'argent, présentement, les pépines sont là à travers.
En fait, c'est de l'argent gaspillé parce que qu'est-ce qu'ils font présentement, je crois que ça donne absolument rien parce que l'idée d'un traversier, c'est une méthode de transport vraiment archaïque. Puis, très
pourquoi?
Pollueur. Ben, c'est hyper pollueur. 18 000 litres de diesel par jour, c'est énorme. Les gens qui attendent l'été, ben, ils ont l'air climatisé dans le tapis, dans leur auto pendant des heures. Tu sais, des fois, tu attends de traverser 3-4 traversées, donc c'est 2 heures de temps que tu attends, l'air climatisé. L'hiver, c'est le chauffage. Donc, tout ça, c'est vraiment pas écologique. Puis, deuxièmement, c'est pas fonctionnel. Quand il y a trop de vent, ça, sont fermés. La hauteur de l'eau, souvent, il y a des camions, certaines voitures ne peuvent pas rentrer. Il y a des grèves qui sont régulières. Il y a aussi il y a des accidents, malheureusement, comme l'accident qu'il y a eu, la personne qui est décédée. Puis il y a toutes sortes d'autres facteurs qui font que c'est souvent arrêté, c'est pas 24 heures sur 24. Donc, il y a plusieurs contraintes qui font que la région se développe pas à cause principalement du problème de transport.
Donc, on en a parlé un petit peu avec M. Lefebvre tantôt. Il y a aussi le phénomène que, le traversier amène son lot de gens qui l'utilisent année après année, mais ça favorise pas nécessairement l'émergence de nouveaux trafics, ce qu'un pont pourrait amener. On a parlé beaucoup, M. Landreville l'a amené la première fois, puis ensuite on a un vibrant témoignage d'un citoyen qui a fait les deux côtés de la rive, qui habite maintenant ici, mais qui habitait avant de l'autre côté et qui lui croit beaucoup que justement il y aurait une circulation accrue non seulement du côté nord mais également aussi à partir de jusqu'à Sherbrooke, peut-être des gens qui voudraient traverser et choisiraient de ne pas passer par Montréal mais par ici.
Oui, tout à fait. En fait, ça deviendrait une voie de contournement pour Montréal également, parce qu'on sait qu'il y a 5 ans de travaux dans le tunnel Louis-Polyte qui s'en vient. Il y a aussi le pont Mercier qui va être refait dans les prochaines années. Donc, c'est une voie de contournement également, mais c'est aussi touristique. Donc, les gens qui viennent, les Américains qui dépensent beaucoup d'argent dans la région de Joliette, par exemple, pour le skidoo l'hiver, ben c'est un problème là, de ici. Donc, mais on l'a vu dans le passé, on n'a pas besoin d'être optimiste ou de dire que ça va être meilleur pour l'économie de la région. On a juste à penser à la 25 et surtout la 30. En même pas 5 ans, les villes comme Beauharnois qui existaient, que personne ne connaissait, aujourd'hui, des compagnies comme IKEA, Canadian Tire et tout ça vont s'établir. Donc, c'est des centres de distribution importants maintenant. Vaudreuil, la même chose, Valleyfield. Donc, j'ai pas besoin d'expliquer longtemps que tous les avantages socio-économiques d'un projet comme ça. Puis, j'ai parlé à un paquet, il y avait beaucoup d'employeurs ici qui ont des entreprises. Puis, recruter des employés quand ils ont des problèmes de traversier comme c'est là, c'est difficile pour les employeurs de Sorel d'aller chercher des gens, un bassin de population qui est juste à côté, là. Joliette est juste à côté, Berthier, etc. Donc, c'est une grosse problématique pour les entreprises de la région. Donc, ça prend inévitablement un pont. Puis les traversiers, c'était peut-être bon il y a 80 ans, mais aujourd'hui, c'est un moyen de transport archaïque qui devrait même plus exister.
Ces travailleurs-là dont vous parlez, qui sont de l'autre rive et qui viennent ici, souvent fonctionnent par navette. Des fois, ils prennent, sont à pied. Il y a des gens qui les attendent ici pour aller travailler. On sait, au départ, votre pont ne parlait pas de place piétonnière pour les piétons, mais tout à l'heure, vous avez montré de l'ouverture d'esprit là-dedans.
Ben, en fait, on a toujours été ouvert, mais c'est une question de coût depuis le début. Puis quand, par exemple, on a rencontré le ministère des Transports, il nous parlait de faire une autre voie, donc de passer de 3 voies à 4 voies. On est ouvert à tout. Mais au final, c'est une question de coût-rentabilité. Puis si on met trop de choses, à un moment donné, peut-être au lieu de demander 20 millions au gouvernement, ça va peut-être être 22 millions par année. Mais ça se fait, là. Tout se fait, il n'y a pas de problème. C'est comme le projet du départ, exemple, était de garder des traversiers, mais des traversiers de nouvelle génération, beaucoup plus petits. Exemple que Navarc fait, par exemple, aux îles de Boucherville, au Vieux-Port de Montréal, ces choses-là. Donc, les traversiers devaient à l'origine rester là, mais sur une différente forme, donc plus touristique et très, très locale, plutôt que les gros traversiers qui coûtent une fortune, très pollueurs, etc., qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est un peu, oui, je suis ouvert à tout. Et garder les traversiers sous une différente forme, ça pourrait être intéressant également.
L'augmentation du trafic pourrait aussi amener des sommes qui pourraient générer des profits supplémentaires qui pourraient rendre rentable. Ça, on ne sait pas. Comme le disait votre ingénieur tantôt, M. Lefebvre, c'est certain que tant qu'on n'a pas fait les études, tant qu'on n'a pas été sondé, combien de gens viendraient de Magog, de Sherbrooke, de Acton Vale, tout ça, de Drummondville, on peut pas figurer combien on pourrait ajouter au budget.
Tout à fait, tout à fait. Puis il y a une variable qu'il faut prendre en considération, c'est que, deux variables, c'est qu'il va toujours avoir une augmentation de trafic au niveau des automobilistes sur les routes, OK? Même si on augmente le transport en commun, l'automobile va toujours être présent, il va toujours être en augmentant d'1,8 % par année minimum. Okay? Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, à chaque fois qu'on a fait une étude de circulation, que ce soit pour l'autoroute 30 ou pour l'autoroute 25, à chaque fois, ça a été les études ont démontré des scénarios tellement pessimistes avec la réalité. Donc, par exemple, l'autoroute 25, c'est à peu près 20 000 automobilistes qui pensaient qu'elle allait traverser. Puis peu de temps après, il y en a plus de 45 000 par jour. Donc, oui, il faut les prendre. Puis même avec les études qu'on a, on le sait que la réalité, les gens vont trouver ça tellement convivial qu'il va y avoir une augmentation beaucoup plus que n'importe quelle étude qu'on aurait.
Prochaine étape?
Les élections.
Il y a les élections qui s'en viennent.
Les élections à l'automne. On espère qu'il y ait un ministre des Transports qui va être là, qui va écouter la région et qui ne changera pas à chaque année comme c'est arrivé dans les derniers 4 ans.
Puis je pense que vous l'avez souvent répété ce soir, puis je pense que les gens sont partis gonflés à bloc. Ça vous prend des ambassadeurs en la personne de chacune des 200 personnes qui étaient ici ce soir. Mais il faut que chacune de ces personnes-là en recrute d'autres pour qu'on fasse pression sur peu importe le gouvernement qui va s'en venir à l'automne.
Tout à fait, tout à fait. En fait, là, je le demande depuis longtemps, mobilisez-vous, puis faites de la pression auprès de vos instances municipales, provinciales, fédérales, en fait, de tout le monde, puis la masse va faire qu'on va réussir, et je crois qu'on n'est pas loin d'arriver à quelque chose. En fait, on sait que l'acceptabilité sociale est très, très, très forte. Puis, c'est une question de continuer le mouvement, puis ensemble, on va y arriver.
Ce qui était rafraîchissant, c'est de voir justement que le mouvement social nécessaire a été soulevé par un jeune homme qui lui, semblait convaincu que c'est par ça qu'on va déboucher.
Ça, c'est certain. Oui, c'est sûr, ça prend ça. C'est pas juste le projet d'un homme, c'est un projet de l'ensemble de la région. Puis, c'est pas juste la région. Il faut comprendre que tout le monde à travers le Québec va en profiter, parce que les gens de Montréal, il y a beaucoup de camionneurs qui seront plus sur des carrés, qui seront plus à 40, qui vont passer ici, une voie de contournement par ici, puis veut pas, ça va vous donner une meilleure, moins de trafic à Montréal, une meilleure qualité de vie également pour les gens de Montréal. Puis c'est pas juste Montréal aussi, c'est la grande région. Quelqu'un qui part de la Beauce, qui veut aller à Joliette par exemple, c'est une grosse différence là. Donc au final, tout le monde va en bénéficier, puis les touristes aussi là, c'est pas juste les gens du Québec là. Les touristes vont venir dépenser plus d'argent. C'est une roue là.
C'est une très bonne idée. Vous avez amené avec vous deux personnes qui ont su mettre de la viande encore plus autour de là. C'est démontré, pas que vous étiez pas crédible, mais que vous avez amené des points techniques. On va les écouter au cours des deux prochaines entrevues. Merci beaucoup, Luc Poirier.
Merci à vous.
On est avec maintenant Monsieur Denis Lefebvre. Il est de Stantec, cette firme-là qui d'ailleurs, cette firme d'ingénierie qui a participé à une partie du projet des éoliennes ici dans la région. Monsieur Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Lefebvre, vous avez été, je pense, la partie qui a nourri le plus l'imaginaire des gens, parce que vous êtes arrivé avec vos graphiques, avec vos faits, vos chiffres. Vous avez mis donc sur la table la réalité de ce que peut devenir le pont sur Eltracy, Lanoraie. Comment résumeriez-vous ça pour nos auditeurs, là, ce que vous nous avez présenté tantôt?
En fait, on a présenté une solution qui permet aux gens de traverser le pont d'une façon sécuritaire, sans entrave à la voie maritime, très important, et sans entrave aussi à la circulation, donc pas de temps d'un côté comme de l'autre. Autant les gens qui vont voyager en automobile ou les gens qui vont voyager par la voie maritime, entre autres les transporteurs qui sont très importants dans la région. On parle de 3000 bateaux par année environ, avec un tirant d'air très important. Donc, c'était important de préparer et de déterminer les gabarits, si on veut, les gabarits d'analyse pour le pont. Donc, avoir un tirant d'air suffisant pour le passage des bateaux dans la voie maritime et d'avoir une largeur suffisante entre les piles aussi pour permettre au Super Panama de passer là, entre ces piles-là. Donc, tous ces éléments-là ont été étudiés pour essayer de sortir une solution la plus économique possible pour réussir à faire ce projet-là. Évidemment, si c'est trop cher, ça ne fonctionnera pas, parce qu'il y a quand même un trafic, en principe, relativement limité quand même pour le projet.
Quand on parle d'études de marché, vous êtes allé avec plusieurs scénarios possibles. On a même pensé envisager un tunnel. Là, on va parler de ce qui a été retenu. En fait, le pont serait à construire chemin du Golfe à Sorel-Tracy.
Oui, en fait, pas directement sur le chemin du Golfe. On parle de plutôt parallèle au chemin du Golfe. Donc, environ 800 mètres là, de la ligne d'Hydro-Québec là, actuellement. C'est un des endroits les plus propices qu'on a trouvé pour construire le pont.
Pourquoi?
En fait, on a un lien direct avec l'autoroute 30. Il y a un viaduc qui est déjà construit à cet endroit-là. Et ensuite de ça, il y a une possibilité d'avoir un chemin qui est parallèle à la ligne d'Hydro-Québec. Donc, il y aurait beaucoup moins d'entraves, beaucoup moins d'acquisitions, beaucoup moins de problèmes d'expropriation en prenant cette direction-là. Et on s'en va jusqu'à l'autoroute 40. Et rendu à l'autoroute 40, là, un viaduc serait nécessaire.
Et justement, le viaduc, on parlait aussi de complexité, de la hauteur là, pour éviter, éviter de jouer à montagne russe. Donc, ça, c'est intéressant.
Oui, en fait, c'est le problème, et surtout du côté sud, donc du côté de Sorel. Le problème qu'on a à cet endroit-là, il y a une voie ferrée hein, qui longe une bonne partie là, de ce secteur-là. Donc, il faut passer en commun avec cette voie ferrée-là. Donc, actuellement, on a prévu un chemin qui est au niveau de la voie ferrée, donc avec une traverse. Maintenant, c'est certain qu'il y aurait d'autres possibilités, sauf que passer par-dessus la voie ferrée, c'est assez exigeant en termes d'hauteur. Et on a un viaduc qui n'est pas assez haut, par exemple, pour permettre un branchement convenable avec un tracé qui passerait par-dessus la voie ferrée. Passer en dessous, alors c'est un problème inverse. On va se retrouver très, très bas par rapport au viaduc, avec des pentes qui seraient quand même très importantes pour remonter sur le viaduc. Donc, dans les deux cas, la solution est un peu difficile. Il n'y a rien d'impossible, hein, remarquez. On peut, à la limite, reconstruire le viaduc aussi, puis en faire un qui serait plus approprié pour les besoins de la cause.
Il y a un terme qui est revenu souvent, c'était que c'était un pont, le terme m'échappe, un pont de ville ou
un pont urbain.
Un pont urbain.
Un pont urbain dans le sens que lorsqu'on a eu la commande, en fait, là, de Luc Poirier, nous, c'est surtout de faire un pont à vitesse faible. Hein, on parle de 50 km/h avec des fils de circulation là, du côté nord. Une traverse aussi, hein, ferroviaire qu'on a. Donc, on va avoir une traverse du côté sud. Donc, c'est pas un pont d'une autoroute. Hein, on comprend que c'est pour accommoder quand même les gens locaux, mais aussi pour faire la liaison entre la 30 et la 40. Donc, à cet égard-là, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Ça peut changer. Hein? On s'entend que c'est une étude de préfaisabilité. Ça peut devenir un cas de voie éventuellement. Donc, il y a plein de choses qui peuvent évoluer durant le développement de ce projet-là.
Oui, vous avez parlé de votre esprit cartésien d'ingénieur qui vous forçait à dire que pour l'instant, ben, c'est ça.
Non, c'est ça, exactement. Pour l'instant, j'ai pas de valeur à vous donner tant que l'étude n'est pas réalisée, mais dès que ça sera réalisé, on pourra les
communiquer. Par contre, il y a une chose que vous avez dit tantôt qui est très rassurante, c'est que oui, on parle sur toute la publicité que le regroupement a fait, on parle beaucoup de 2028 comme étant une échéance maximum. Hein? C'est peut-être la limite vers laquelle on veut aller, mais ça peut se faire très rapidement si on a les résultats des études et les autorisations nécessaires. Construire un pont comme celui-là, ça prend combien de temps?
Ça prend environ 3 ans. À partir du moment où toutes les autorisations sont scellées, que nous avons le financement, etc., on parle d'environ une année d'ingénierie, ensuite 2 ans de construction là, pour le pont.
Parce qu'on assiste en ce moment du côté des gens qui circulent un peu du côté de la métropole, ont vu que ça peut se faire très rapidement. Là, oui, on voit le pont Champlain évoluer très, 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 très vite.
Exact.
Ben, monsieur Lefebvre, merci beaucoup de vos lumières. Ça a été très intéressant de suivre ça. Je pense que vous avez convaincu. Il y a le député fédéral Louis Plamondon, d'ailleurs, qui a dit qu'après votre présentation, il était passé d'un appui de 100 % à 150 %. Alors, c'est pas rien. Alors, merci beaucoup de cette présentation. On va souhaiter que les gens se mobilisent à Sorel-Tracy en région pour faire de ce pont-là une réalité.
Bienvenue et bonne chance à tous les gens de la région.
Avec Frédéric Bété de COSIM Infrastructure et Énergie, on a appris au cours de son allocution tous les rouages assez complexes du financement d'un projet comme celui du pont Sorel-Tracy-Lanoraie. Frédéric Bété, d'abord, bonjour.
Bonjour.
À Frédéric Bété, si on expliquait rapidement là, ce que ça implique, un projet comme celui-là, comme structure financière pour que ça soit une réussite, quelles sont les étapes que vous avez traversées?
Bien, premièrement, on veut avoir un soutien du gouvernement provincial, peut-être aussi du fédéral, pour pouvoir payer une partie des frais de construction et peut-être même aider à l'opération au fil des années du projet. Autrement, par exemple, ce qu'on a besoin, c'est surtout un promoteur ou un investisseur clé, comme dans le cas ici de M. Poirier, pour pouvoir faire les études préliminaires, avancer, développer le projet et investir donc des sommes d'argent importantes pour ensuite aller chercher des investisseurs externes et mettre le projet de l'avant. Mais les premières étapes les plus critiques, c'est vraiment là, d'investir dans nos études préliminaires, que ce soit en géotechnique, en études de fluidité, trafic, des choses comme ça.
les études qui se multiplient, je sais que le gouvernement actuel demande encore plus de détails pour penser aller peut-être de l'avant. Il y a plein de points d'interrogation encore qui se lèvent et c'est des sommes supplémentaires. Est-ce que c'est possible de penser qu'on va aller jusqu'au bout de tous ces questionnements-là qu'il faut répondre pour le gouvernement?
Je pense que c'est possible si le gouvernement décide que c'est un projet qu'il veut faire, que c'est un projet prioritaire, donc lui-même peut dépenser ces sommes-là pour faire les études, comme c'est un projet traditionnel. Dans le cas présent, ce qu'on aimerait faire, c'est que le secteur privé dépense ces sommes-là, ou du moins en partie, ou même peut-être en totalité, pour, dans le fond, aider le gouvernement. Mais en échange de quoi, il faut qu'on comprenne bien qu'est-ce que le gouvernement pourra nous permettre de faire avec les études, et est-ce que ça pourrait aboutir à un projet pour le secteur privé. Donc, le privé ne veut pas investir dans un projet pour le mettre sur une tablette là, dans un rapport au ministère.
J'ai posé la question tantôt, puis ça a été relevé par une autre personne dans la salle aussi. On a parlé de privé, on a parlé de provincial, on parle très peu de fédéral. Qu'est-ce qui est possible d'aller chercher de ce côté-là? Est-ce que c'est souhaitable d'aller chercher des sommes de ce côté-là?
C'est possible, je pense, mais comme on l'a parlé aussi avec votre député fédéral, souvent le gouvernement fédéral va laisser la juridiction, surtout dans le moyen de transport, au provincial. Il va donc, le fédéral peut transférer des sommes au provincial, mais c'est le provincial qui doit en faire la décision, en prendre la décision sur quel projet investir. Ceci pourrait changer dans les prochaines années avec la banque d'infrastructures qui est en train d'être mise en place, où le privé pourra peut-être justement emprunter des sommes à taux préférentiel. Donc oui, il y a une possibilité d'avoir le fédéral dans le projet, mais avant de se rendre là, il faut monter un dossier, que ce soit au privé ou au provincial.
Évidemment, tout ça, vous avez déjà travaillé sur des projets novateurs. Pierre de Sorel, ça, c'était novateur. C'est une MRC qui décide d'aller de l'avant dans un projet. Vous avez réussi à attacher les ficelles là-dedans.
Oui, de ce côté-là, je vous dirais, je ne veux pas dire que c'était facile, mais c'est là où on avait une étape déjà franchie, c'est que le gouvernement avait déjà décidé d'aller en appel d'offres pour des projets municipaux ou de Première Nation. Donc, l'étape d'avoir un champion au niveau du gouvernement, d'aller de l'avant avec un projet municipal, était déjà passée. Nous, ensuite, on a passé à travers les étapes de mettre en place un financement qui était, oui, innovateur, mais l'approbation gouvernementale était déjà obtenue. Alors, on a eu cette chance-là quand même. Donc, il y a quelqu'un qui a poussé donc le gouvernement provincial dans ces années-là à faire des appels d'offres municipales pour favoriser justement des projets d'ordre municipal dans l'énergie renouvelable. Et c'est à ce moment-là que la partie du champion s'est jouée dans le fond.
Ce champion-là, souvent, il faut y pousser dans le dos, tirer la manche, c'est-à-dire le solliciter. Et on a parlé de mouvement social pour le faire, c'est-à-dire que la population doit se mobiliser pour trouver ce champion-là.
Oui, la population doit se mobiliser pour le faire. Des fois, c'est un homme ou une femme politique. Des fois, ça peut être un autre acteur du milieu des affaires. Ici, je pense que M. Poirier essaie de le faire. Mais ça a ses limites parce qu'évidemment, lui, en tant que promoteur, il ne représente pas tout le monde. Donc, il faut qu'il y ait un mouvement qui se développe autour. Je pense que la soirée de ce soir est un pas dans la bonne direction. Il y a des gens, évidemment, qui mettent un effort. Il y a des gens qu'on a attendus qui travaillent là-dessus depuis au moins 25 ans. Donc, espérons que ça ne prendra pas un autre 25 ans.
Ce qui reste à faire aux gens, c'est justement de s'impliquer pour faire en sorte que les choses avancent du côté gouvernemental. On sait ce qu'on va souhaiter pour qu'on puisse se reparler avec des bonnes nouvelles. Merci beaucoup.